9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
À votre santé, à votre bonne santé à tous. Très content de vous retrouver pour cette heure quotidienne où on a le temps de parler avec des invités. Mon invité aujourd'hui s'appelle Alban Orsini. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes docteur en sciences et conférencier et vous publiez journal scientifique. Merci pour ce diabète, pardon, si j'enlève le titre. Journal scientifique et humoristique d'un diabétique aux éditions Hugo Poche. Un livre qui aurait pu s'appeler le colocataire. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé de titre en route?
Parce que le projet a changé en cours de route. Je le raconte d'ailleurs dans le livre également. Le colocataire, c'est quelque chose de, c'était une image facile pour exprimer ce que c'est que de vivre avec une maladie. C'est d'avoir quelqu'un à côté de soi qui vous accompagne constamment. Et puis en cours de route, je voulais quelque chose de beaucoup plus fédérateur et beaucoup plus large et qui soit multi-entrée. Donc c'est un titre qui peut être compris de plein de façons différentes, avec humour, avec sérieux, avec une pointe de sarcasme. Voilà. Donc j'aime bien que l'imaginaire travaille un peu dès le titre et évoque tout ce qui le livre en lui-même.
Mais qu'est-ce que vous voulez dire par merci pour ce diabète? Est-ce qu'on peut remercier une maladie avec laquelle on vit au quotidien?
Alors encore une fois, il y a plein de choses dans ce titre. Alors effectivement, si on le prend de manière littérale, est-ce qu'on peut remercier une maladie? Je pense qu'à titre personnel, oui. Alors encore une fois, mon cas est un cas personnel, un cas qui ne vaut pas pour une généralité. Donc effectivement, moi, ma maladie m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur ce qu'était le corps humain et ce qu'était mon corps, corps dont je n'avais pas forcément conscience auparavant. Donc en quelque sorte, cette maladie m'a appris beaucoup sur moi, m'a appris beaucoup sur les gens et ce que c'est que de vivre avec une maladie chronique. Donc quelque part, je lui dis merci, même si c'est pas tous les jours, à toutes les heures et tout le temps.
C'est ça qu'il faut dire.
Exactement. Il y a des jours où je lui dis pas du tout merci, où je lui en veux terriblement, mais de manière globale, on peut avancer également, et je pense qu'on peut essayer tous ensemble d'intégrer la chose de la plus simple manière qui soit. Mais ça vaut pour toutes les maladies, je pense.
Vous êtes scientifique de formation.
Exactement.
À quel genre votre livre appartient-il? Est-ce que c'est un livre scientifique? Est-ce que c'est un livre de témoignage? Est-ce que c'est un livre de sensibilisation?
Encore une fois, pareil, le titre était polyentrée. Ben, le livre est également polyentrée. J'aime un peu les livres ovni. Donc, c'est tout à la fois une encyclopédie. C'est-à-dire que quand on est malade, il faut qu'il y ait un endroit de référence pour reprendre un petit peu des bases. Quand on prend, par exemple, un médicament, quand on est diabétique de type 2, eh bien voilà, vous trouverez dans ce livre ce qu'est, à quelle famille appartient ce médicament. Mais c'est également un témoignage personnel. Je raconte mon histoire personnelle, mon ressenti, la façon dont j'ai vécu l'annonce du diabète et comment je le vis à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est également une fiction parce que quand on est diabétique, on rencontre plein de monde qui finissent par devenir des personnages et je voulais également investiguer cette piste. Donc ce livre s'adresse à tout le monde.
D'ailleurs, vous personnifiez certains des personnages, pas tous, l'infirmière, le diabétologue. Pourquoi cette envie finalement de leur donner des petits noms, d'en faire des personnages de fiction, alors, ou en couleur?
Tout est fiction dans la vie quelque part et effectivement quand on rencontre, quand on plonge véritablement dans ce monde qu'est celui qu'éprouvent les malades qui sont confrontés à la maladie et à d'autres malades, on s'aperçoit qu'il y a des archétypes, des personnes qui pensent un petit peu la même chose ou qui ressentent les mêmes choses et je voulais jouer avec ces archétypes et en faire des vrais personnages de fiction qui viennent également apporter leur pierre à l'édifice dans ce témoignage, c'est-à-dire que toutes ces personnes-là ont existé et j'ai tenté de leur donner un corps beaucoup plus fictionnel pour leur rendre témoignage.
Chez vous, le diabète, c'est une histoire de famille.
Effectivement.
Vous le saviez un peu, mais avec le temps, vous vous êtes rendu compte que finalement, c'était une histoire beaucoup plus longue que vous n'imaginiez. Ça commence par le personnage de votre grand-mère.
Exactement, depuis tout petit, je suis confronté à cette maladie. Ma grand-mère était diabétique de type 2. J'ai appris plus tard que mon arrière-grand-mère était également diabétique de type 2 et ma mère est diabétique de type 2. Donc mes premiers souvenirs, si j'essaie de remonter le fil de mon premier contact avec la maladie, effectivement, ce sont les injections d'insuline de ma grand-mère le matin. Elle était diabétique de type 2 sous insuline. C'était également ses hypoglycémies. Alors elle avait une vision un peu ésotérique de l'hypoglycémie parce qu'elle était capable de dire en début de journée, tiens, il y a le vent d'est qui s'est levé, je vais faire une hypoglycémie. Et puis effectivement, quelques heures après, elle faisait une hypoglycémie. C'était très ésotérique pour moi. C'est devenu beaucoup plus réaliste plus tard, bien que je ne sois toujours pas sensible au vent d'est comme ma grand-mère.
Et il y a cette fameuse phrase, mémé fait sa piqûre.
Mémé fait sa piqûre, effectivement.
C'est votre enfance, ça.
Exactement. Il y avait une espèce de cérémonial le matin où mon grand-père, allait s'enfermer avec ma grand-mère pour nous épargner quelque part cette réalité de la piqûre. Mais du coup, en disant cette phrase-là, mémé fait sa piqûre, ça devenait autre chose pour nous. Ça devenait une sorte de rituel où il fallait plus qu'on fasse de bruit. Et voilà. Donc c'est effectivement mes premiers souvenirs sur la maladie qui ont quelque chose de très étrange.
Et pourtant, vous soupçonniez pas, hein, quand on lit votre livre, qu'un jour vous seriez atteint par la maladie.
Je pense qu'on se ment beaucoup à soi-même quand on est confronté à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, le diabète de type 2 est une forte part d'hérédité. Mais tant que ça ne nous touche pas personnellement, ben, on s'en fiche un petit peu. Donc, je vivais avec en me disant, peut-être que je déclarerais un diabète de type 2 vers la quarantaine, cinquantaine. Et j'étais loin de m'imaginer que j'allais déclarer un diabète à la trentaine, mais en plus un diabète qui n'a rien à voir avec le diabète de type 2, mais un diabète de type 1. Donc voilà, on évolue en étant un peu insouciant. Et puis tout bascule du jour au lendemain.
Mmh. Et du jour au lendemain, vous vous souvenez précisément de la date.
Ouais, c'était en avril, mai, en mai plutôt, genre, je dis précisément.
16 mai 2012. Alors, vous en souvenez pas si précisément
ça commence à partir un petit peu bizarrement. Alors, il y a mon diabiversaire que j'essaie de fêter, mais qui se confond maintenant avec d'autres dates. Mon diabiversaire, c'est effectivement, chaque année, je célébrais la date de mon anniversaire, le 16 mai. Sachant qu'en fait, ma découverte de diabète a été proclamée le 16 mai, mais en fait, j'ai commencé à déclarer des symptômes un mois avant. Donc, c'est pour ça que j'ai cette espèce de flou entre avril et mai maintenant, qui est en train de se mettre en place, et tant mieux d'oublier un peu cette date.
Qu'est-ce qui vous amène à consulter?
Alors, ce qui m'amène à consulter, c'est qu'effectivement, je déclare un diabète de type 1. Donc, le diabète de type 1, au contraire du diabète de type 2, est explosif. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je perds énormément de poids, je bois énormément d'eau, je me lève la nuit pour aller uriner. Donc, le mot diabète, ça veut dire passer au travers, cette notion-là que les gens, dans l'Antiquité, quand ils étaient, entre guillemets, diagnostiqués comme diabétiques, il y avait cette notion de boire beaucoup et d'uriner beaucoup. Donc, j'étais fatigué, j'avais un voile devant les yeux, mais pendant un mois, je me suis dit, tiens, ça part à volo. Mais pareil, hein, je parlais d'œillères tout à l'heure, je me suis mis des grosses œillères en me disant non, c'est pas si grave que ça, ça peut pas être si grave que ça. Et il a fallu attendre que ça touche à mon intimité, c'est-à-dire que quand on est diabétique et qu'on n'est pas traité, on a le sang qui est gorgé de sucre, ce qui transparaît également sur la peau. Donc j'ai eu des désagréments sur cutanés, en fait, qui ont fait que une fois que ça touchait mon intégrité, je suis allé tout de suite consulter, parce que là, ça devenait plus possible, ce qui est assez amusant. Et un des messages importants aussi sur les maladies, c'est dès qu'on voit qu'il y a un souci, il faut tout de suite aller consulter plutôt que d'attendre.
Il faut écouter son corps.
Oui, on l'écoute pas assez. C'est pour ça qu'une des entrées de Merci pour ce diabète, c'est ça. Depuis, j'écoute beaucoup plus mon corps et j'attends un petit peu moins. On a cette appétence, nous autres humains, à se cacher les choses. Je pense qu'il faut véritablement qu'on se reconnecte à son corps et qu'on lui fasse confiance.
Alors, à cette époque-là, vous avez 32 ans.
Oui.
Hein, vous n'êtes pas en surpoids.
Non.
Plutôt sportif.
Plutôt sportif, ouais. Magnifique. On me croise, on me dit, mais quelle grâce, quelle plénitude, quelle jouvence. Mais pas du tout, patatras, du jour au lendemain, plus rien ne va et je suis diabétique.
Ouais. Et quand vous dites perte de poids, c'est une sacrée perte de poids. Hein.
Ouais, j'ai perdu près de 9 kilos en peu de temps, entre 9 et 12 kilos. En fait, le temps a été plutôt long là-dessus et je buvais 9 litres d'eau par jour, ce qui était énorme en fait.
9 litres d'eau, oui.
Ouais, énorme,
imaginez ce que ça fait, 9 litres. Et vous buviez pas que de l'eau, hein. Vous aviez une appétence pour les boissons sucrées, dites-vous.
Alors c'est très ambigu parce qu'effectivement un diabétique qui n'est pas traité a le sang gorgé de sucre, mais en même temps le sucre n'atteint pas les organes, donc les organes envoient le signal qu'ils ont besoin de sucre. Donc votre corps vous pousse à boire des sodas. Donc comme je voyais que c'était un peu étrange de boire autant de sodas, je me suis mis à vouloir boire du Coca Light pour réfréner cette entrée de sucre dans mon corps. Mais effectivement mon corps m'envoyait le signal que le Coca Light était dégueulasse en fait, clairement. J'avais envie de vomir quand je buvais des Coca Light parce que mon corps voulait du Coca sucré. Donc c'est très très particulier à vivre.
Donc dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Donc vous avez un doute, vous allez chez le médecin puisque vous aviez ces soucis cutanés que vous racontez
dans
le livre,
dans les détails,
mais qui sont clairement très intimes. Mais faut quand même aussi expliquer aux gens que c'est ce qui peut arriver et c'est ce qui peut vous mettre peut-être sur la piste. Hein.
Exactement. Alors pour parler clairement, c'était donc des désordres cutanés de l'ordre d'un furoncle sur la fesse que je personnifie comme un personnage également dans mon livre et également des mycoses sur le gland. Allons-y également. Voilà. Et ça a été effectivement à partir de là, je me suis dit non, là il faut vraiment que je consulte. C'était totalement idiot, hein, boire autant d'eau et perdre autant de poids sont des signes très très préoccupants. Donc effectivement, ça se à partir de ce moment-là que j'ai consulté un médecin qui m'a fait prescrire une prise de sang et j'ai eu les résultats dans la journée. On m'a dit, ben, filez vite aux urgences parce que vous êtes sur le point de faire un coma. Donc voilà.
Et là, ça vous étonne que subitement il y ait une urgence, qu'on vous envoie aux urgences. Là, il y a quelque chose qui va pas.
Parce qu'effectivement, on a cette image d'Épinal qui est totalement fausse, de se dire que le diabète c'est pas si grave que ça. Et effectivement, quand j'arrive aux urgences, quand on me fait passer devant tout le monde, alors qu'il y a des gens qui voilà sont blessés en sang, enfin voilà, qu'on me fasse passer devant tout le monde, ça m'interpelle un petit peu. Donc je dis, ben non, c'est pas, enfin on peut attendre. Et on me fait comprendre que non, en fait, mon pronostic vital est engagé et que il faut que je sois très vite traité. Donc c'est un peu perturbant parce qu'on n'a pas cette idée-là quand on n'est pas touché par la maladie. Mais effectivement, le diabète, on peut en mourir. C'est la 4e cause de mortalité dans le monde. Et un diabétique de type 1 ne vivait pas il y a près de 100 ans.
Et alors on parle du diabète, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on parle d'épidémie de diabète. Hein,
parle de pandémie en fait.
Ouais, mondiale. Hein, ouais. Attention, hein, oui. On parle beaucoup du Covid, mais le diabète ça touche beaucoup plus de gens.
Hein. Ouais, oui, je l'ai dit, c'est 465 millions de personnes à travers le monde, si je ne dis pas de bêtises, et on estime que nous serons 700 millions en 2045. Donc c'est galopant, notamment le diabète de type 2. Il faut comprendre que le diabète, en fait, on devrait parler plutôt des diabètes. Il y a deux grands types de diabète, mais en fait il y en a une vingtaine.
Une vingtaine ?
Oui, c'est assez complexe.
C'est marrant, parce que je croyais qu'il y en avait 4 ou 5.
C'est plus compliqué que ça, en fait. Et on est en train d'ouvrir un petit peu ces portes-là. On a l'habitude de présenter les deux grands types de diabète en mettant une espèce de,
un et
de
deux.
Fossé entre les deux. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des maudits, des LADA. Il y a le diabète africain également. Enfin voilà, il y a plusieurs types de diabète.
Le diabète africain ?
Exactement, qui se déclenche comme un diabète de type 1 et qui évolue plutôt comme un diabète de type 2.
Alban Orsini, notre invité ce matin. Alors c'est vrai que on parle du diabète parce que faut vraiment faire de la prévention pour le diabète. On ne le dit jamais assez, le diabète est une maladie, en dépit de ce qu'on peut lire jusqu'à présent sur les réseaux sociaux, sur Internet, est une maladie qui pour l'instant ne se guérit toujours pas. Et vous insistez beaucoup là-dessus, hein.
Oui, parce que on trouve une littérature, quand on découvre sa maladie, qu'on va un peu s'enseigner, on trouve une littérature qui vous fait croire un petit peu le contraire, avec des titres, comment guérir son diabète, méthode miraculeuse pour guérir son diabète. Et quand on creuse, on voit dès les premières pages que la personne écrit tout de suite, bon, on ne guérit pas du diabète, mais on peut en atténuer les effets. Donc effectivement, sur le diabète de type 2 notamment, on peut redescendre de ce qu'on appelle l'escalade thérapeutique, par une hygiène de vie correcte, du sport, etc. Mais on ne guérit pas, on sera toujours diabétique. Donc pour l'instant en tout cas, on espère que les traitements puissent évoluer pour véritablement atteindre cette guérison, mais on n'en guérit pas. On peut en réduire l'impact, mais on n'en guérit pas.
Oui, et on en parlera tout à l'heure, mais le diabète c'est devenu aussi un business. Alban Orsini, notre invité ce matin, vous publiez « Merci pour ce diabète, c'est en poche hein, », donc c'est un livre qui coûte pas cher, journal scientifique et humoristique d'un diabétique, et on en parle jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Et nous parlons de diabète ce matin avec mon invité qui s'appelle Alban Orsini, qui publie « Merci pour ce diabète » aux éditions Hugo Poche. Vous employez peu le mot « patient expert ». Vous vous définissez comme un patient expert ou pas du tout ?
Alors,
c'est quelque chose que vous n'aimez pas, au contraire.
Alors, au contraire, alors je suis certifié patient expert. J'ai passé une formation pour l'être, mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a différentes façons de se présenter là-dessus. Il y a les termes de patient partenaire, etc. Le mot expert est peut-être un petit peu galvaudé. Donc, voilà, c'est un statut qui provient du Canada en fait, où ils sont vraiment en avance par rapport à nous. On passe vraiment un master qui a débarqué également en France hein, sur l'expertise patient. Ils sont véritablement rémunérés et considérés et intégrés dans le circuit médical. En France, c'est encore un petit peu frileux, ça évolue beaucoup et j'interviens effectivement beaucoup dans des réunions qui mélangent médecins et paramédicaux sur le sujet pour justement comment on inclut les malades dans cette expertise-là, quels sont les ponts qu'on peut faire entre la médecine et l'expertise patient. Et voilà, et c'est très important effectivement de pouvoir communiquer quand on apprend sa maladie et quand on a des questionnements, de pouvoir communiquer avec ses pairs sur le sujet et de plus en plus ça évolue. Donc effectivement, j'aborde pas cette partie-là dans le livre. J'ai depuis beaucoup travaillé sur le sujet et j'interviens en tant que patient expert, hein, ce grand mot.
Certifié.
Certifié.
Non, exactement. Non, mais vous avez raison. Le mot expertise aujourd'hui est très galvaudé.
Oui.
Et il y a beaucoup de gens qui sont experts de pas grand chose, mais qui revendiquent une expertise.
Oui, et puis on apprend justement dans cette formation-là à redescendre d'un cran sur cette expertise et de ne pas chercher à expliquer ce que l'on ressent, mais à vraiment échanger avec les malades pour que ce soit eux qui finalement comprennent mieux leur maladie. Donc, voilà.
Vous êtes de formation scientifique, mais vous n'êtes pas médecin.
Non, surtout pas, et je prétends absolument pas l'être, et j'insiste toujours que sur l'expérience que je livre, c'est une expérience personnelle. Il y a des gens, je vis plutôt bien mon diabète, encore une fois, j'en ai fait quelque chose de plutôt positif dans ma vie, mais il faut surtout pas penser que prendre les choses de manière positive est une chose forcément à faire, c'est une charge mentale, hein. Il y a des gens qui n'y parviennent pas, il y a différentes façons d'appréhender sa maladie, et ma parole ne vaut pas plus qu'une autre, donc je suis à ma place en tant que malade, point.
À la suite d'une prise de sang en 2012, vous atterrissez aux urgences, hein, prise en charge urgente. Et alors, on vous dit pas tout de suite de quoi vous souffrez précisément. Il y a quand même un moment où vous voulez savoir déjà si vous êtes diabétique. C'est une question qui vous obsède à ce moment-là. Pourquoi est-ce que vous vouliez valider le diagnostic?
Parce que, encore une fois, voilà, je suis...
Rapidement, je veux dire.
Oui, je suis scientifique de formation. J'avais encore une fois la référence de ma grand-mère, de ma mère sur ce sujet-là. Donc, je pensais bien qu'il y avait de cela. Mmh. Et donc, je voulais mettre tout de suite un mot sur ce que j'avais pour tout de suite avancer dans ma prise de conscience et ma prise avec cette nouvelle réalité. Donc, il fallait vite que j'ai un diagnostic. Mmh. Le diagnostic du diabétique a été finalement fait assez rapidement. Par contre, il y avait ce litige sur le type de diabète. Parce que, encore une fois, une déclaration d'un diabète de type 1 à 32 ans, c'est un peu tardif. Donc voilà, ils devaient valider leur hypothèse de diabète de type 1 par une prise de sang et vérifier mes anticorps qui validaient ou non cette piste.
Voilà, alors que vous êtes d'une famille de diabétiques de type 2.
Exactement.
Et deuxième partie de votre réflexion, vous vous demandez pourquoi finalement, pourquoi ça me tombe dessus ? Vous vouliez absolument comprendre.
Forcément, encore une fois, c'est des mécanismes qui sont totalement normaux. Hein. Quand on apprend une maladie, on essaie de savoir ce qui en est la cause, c'est pas forcément facile, hein, on le sait, par exemple pour le cancer, on trouve pas forcément les causes. C'est également le cas sur le diabète, c'est très très complexe et on le sait pas avec précision, contrairement à ce qu'on croit. Le diabète de type 2, c'est effectivement lié à la sédentarité, à des mauvaises pratiques alimentaires, mais pas que, c'est l'hérédité, c'est l'environnement, donc c'est très stigmatisant de dire que les diabétiques de type 2, ce sont des personnes qui sont gidouillardes, il y a un cliché là-dessus. Voilà,
et personne.
Gidouillard, c'est un mot que j'aime bien employer pour le diabète de type 2, j'aurais beaucoup là-dessus. C'est l'image d'Épinal qu'on en a dans le livre. J'appelle ça
quoi, gidouillard?
Gidouillard, c'est-à-dire bon vivant, qui mange bien, etc. Donc c'est un terme que j'aime bien parce qu'il veut tout dire et n'importe quoi, et j'aime bien le mettre du coup pour cette image d'Épinal qu'on a des diabétiques de type 2, qui est très stigmatisante. Et pareil pour le diabète de type 1, on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain les globules blancs se retournent contre le pancréas. On a des pistes, mais c'est pas encore élucidé.
Oui, c'est vrai qu'on dit toujours que le diabète de type 2, c'est ceux qui se laissent aller, quoi.
Exactement. En fait. Et c'est un cliché qui est très stigmatisant et qui peut conduire à des troubles du comportement alimentaire très, très durs.
Mmh. Alors, vous allez très vite être sensibilisé avec le vocabulaire. Le premier mot lâché, c'est hypoglycémie. Vous faites votre première hypo que vous redoutiez énormément.
Mais encore une fois, j'avais cette image de ma grand-mère qui faisait des hypos, donc j'avais la notion que c'était quelque chose de terrible à vivre. La première hypo est assez particulière parce que ce sont des sentiments qu'on n'a pas, qu'on n'a jamais expérimenté, en tout cas j'avais jamais expérimenté. Donc j'ai juste eu l'impression d'être en train de mourir, hein. Alors un côté très tragédien dans la façon de l'appréhender, mais voilà, depuis
une hypo pour tout le monde, parce que c'est vrai que le mot est connu, mais on sait pas vraiment de quoi il retourne, en fait.
C'est pas un symptôme lié au diabète, c'est un symptôme qu'on appelle iatrogène, c'est-à-dire qu'il est lié au traitement. Un diabétique qui n'est pas traité ne fait pas d'hypoglycémie, mais c'est parce qu'il s'injecte de l'insuline qui fait baisser donc le taux de sucre dans le sang, qu'il va trop baisser le taux de sucre et qu'il va faire un malaise parce que le corps est en manque de sucre. Donc c'est clairement un malaise en fait, hein. On a on transpire, on se sent un peu partir, on a des difficultés à communiquer, on se sent mal, on peut avoir des nausées, etc. Donc on devient blême, et voilà. Et puis il suffit de prendre quelques carreaux de sucre, un verre de jus de fruits, et au bout d'un quart d'heure ça va beaucoup mieux. Donc la première était assez impressionnante, et puis depuis ça fait partie de ma vie que d'en faire de temps à autre. Voilà.
La fameuse hypo. Alors il y a l'hypo diurne de la journée, mais il y a ce qu'on sait moins, hein, c'est qu'il y a l'hypo nocturne.
L'hypo nocturne, effectivement, c'est celle qui vous réveille en pleine nuit, qui fait que vous allumez la lumière et que vous réveillez toute votre famille avec votre besoin d'aller prendre du sucre. Et effectivement, elle est un petit peu redoutée parce que si on est isolé, seul, ou si on la fait pendant notre sommeil et qu'elle nous réveille pas, elle peut s'aggraver et conduire à un coma diabétique, de la même façon que l'hyperglycémie, qui est donc l'inverse de l'hypoglycémie, c'est-à-dire l'hyperglycémie, c'est un taux de sucre trop élevé, peut conduire également également au coma.
Oui, c'est ce qui vous a aussi conduit à l'hôpital, parce que vous aviez un taux de sucre qui était très élevé.
Exactement, et c'est cette hyperglycémie qui s'installe dans le temps quand on n'est pas traité, qui va conduire à des complications qui sont liées à la, voilà, ça va abîmer les reins, ça va abîmer le cœur, ça va abîmer le cerveau, ça va abîmer les yeux, voilà, les pieds également. Donc c'est justement pour ça qu'on traite le diabète.
Mais évidemment, ça, évidemment, vous ne le saviez pas.
Du tout.
Ouais, hein, et beaucoup ne le savent pas encore. Hein.
Bien sûr, encore une fois, je le rappelle, c'est la quatrième cause de mortalité dans le monde. On meurt des conséquences du diabète. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire une crise cardiaque à cause d'un diabète mal régulé, etc.
Vous restez un moment à l'hôpital, hein, aux urgences, mine de rien.
Oui, ça dure deux bonnes semaines, le temps de.
C'est fou, hein.
En fait, c'est comme deux semaines de cours, en fait. Globalement, c'est un peu ça l'idée, hein. C'est-à-dire qu'on régule déjà votre taux de glycémie dans le sang, donc on s'assure que tout va bien à ce niveau-là. On vous éduque à comprendre votre pathologie, parce que c'est une pathologie dont le traitement peut être complexe, notamment quand on est sous insuline. Il faut comprendre ce qu'on fait. On peut jongler avec des notions de cinétique d'insuline qui sont plutôt lentes, plutôt rapides. On peut calculer les glucides, etc. Donc voilà, l'équipe médicale prend le temps que lorsque vous sortez, vous sachiez quoi faire.
10 ans après, est-ce que ça s'est simplifié justement la prise en charge du diabète ou pas du tout ?
Alors ça s'est simplifié dans
les traitements,
technologies qui sont plutôt mises en place. C'est-à-dire que typiquement, il y a eu la grande avancée que moi je n'ai pas connue parce que j'en ai tout de suite profité, qui a été l'insuline lente, qui a permis effectivement d'avoir une insuline qui agit pendant presque 24 heures, ça dépend un petit peu des gens, qui était déjà une belle avancée. Et depuis, on a eu des belles avancées technologiques qui sont de deux types. La première, ça a été l'apparition des capteurs de glycémie qui permettent, donc c'est un patch qui est posé sur le bras, hein, j'en ai un moi-même, qui va suivre en temps réel votre glycémie. Jusqu'alors, on se piquait le bout du doigt, on faisait perler une goutte de sang, on regardait avec un petit appareil son taux de glycémie. Là, tout d'un coup, on a un appareil qui vous permet de suivre en temps réel votre glycémie. Donc, c'est une belle évolution parce qu'on ne se pique plus le doigt et c'est beaucoup plus pratique.
Vous aviez un truc, hein, pour vous piquer le doigt, vous expliquez. Il y avait les jours pairs et les jours impairs.
C'est ça.
Parce que ça fait partie des choses, ça fait partie du quotidien des diabétiques.
C'est exactement, oui. Parce qu'effectivement, quand on se pique le doigt, pour ceux qui se piquent encore le doigt et qui n'ont pas de capteur sous-cutané, effectivement, au bout d'un moment, on a les doigts qui deviennent insensibles. Voilà, donc il faut faire un petit peu attention. Donc, il y a des petites règles comme ça pour changer de doigt, ne pas oublier quel doigt on a piqué et voilà. Et puis c'est vrai que dans les technologies, il y a aussi tout ce qui est apparu pour les diabétiques de type 1 notamment, c'est la notion de boucle fermée. C'est-à-dire que les diabétiques sous pompe, je suis sous pompe, c'est-à-dire que j'ai une pompe à insuline qui m'injecte de l'insuline tout au long de la journée.
Alors, qui est placé où ?
Qui est placé, je l'ai dans la poche, hein, c'est pour ceux qui ne le verront pas, c'est un petit boîtier comme
je peux montrer à la caméra. Ouais.
D'accord. Donc c'est un petit boîtier que j'ai dans la poche et qui est relié par un petit fil, il y a différents types de modèles, etc. Donc ça permet à la fois de suivre ma glycémie avec le capteur qui est relié en Bluetooth, on est un petit peu bionique quand on est diabétique. Et elle m'injecte mon insuline tout au long de la journée. Et maintenant, du coup, la boucle fermée, c'est simplement que le capteur que j'ai sur le bras communique avec la pompe. Et si, par exemple, mon taux de glycémie augmente, la pompe va automatiquement, intelligemment, grâce à un algorithme et une intelligence artificielle, m'injecter l'insuline dont j'ai besoin. Donc ça aussi, c'est une belle évolution parce qu'on n'a plus cette charge mentale de se dire « il faut que je contrôle, il faut que je sois vigilant ». On se décharge un peu grâce à ces avancées technologiques.
Est-ce que vous avez une idée de combien ça coûte, ce système-là ? Non, parce que on parle jamais d'argent, mais j'imagine que c'est quelque chose qui vaut très cher, ça.
Alors oui, effectivement, on parle pas beaucoup d'argent, oui et non. C'est-à-dire que la Sécurité sociale et l'État le rappellent, hein, le diabète, ça coûte cher à la Sécurité sociale, d'où l'importance de prendre correctement en charge les diabétiques. Il y a beaucoup de débats sur la prise en charge des nouveaux appareils. Généralement, dès qu'on voit, nous, diabétiques, les nouvelles technologies apparaître et le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'elles soient prises en charge par la Sécurité sociale, ça peut être très long, ça peut être de l'ordre de plusieurs années. Donc voilà, donc oui, c'est effectivement, c'est une maladie qui coûte cher. Le traitement par pompe, c'est plusieurs milliers d'euros par an, donc on coûte cher, mais en même temps, avoir des technologies modernes plus efficaces, c'est aussi l'assurance qu'on suive mieux notre traitement. Donc in fine, on coûtera moins cher à la Sécurité sociale également. Donc c'est un achat qui vaut cher, mais en même temps qui nous permet d'être plus observants sur le traitement et donc de revenir moins cher à la Sécurité sociale.
Alban, Orsini, notre invité ce matin. Je rappelle que vous publiez Merci pour ce diabète. C'est le journal scientifique et humoristique d'un diabétique aux éditions Hugo Poche. Vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Notre invité ce matin s'appelle Alban Orsini, scientifique de formation. Vous êtes diabétique de type 1. Vous avez déjà écrit un livre, d'ailleurs, sur le diabète, il y a quelques années. Et vous continuez suite au courrier que vous avez reçu, puisqu'il y a eu énormément de réactions. Ce nouveau livre s'appelle Merci pour ce diabète, journal scientifique humoristique d'un diabétique aux éditions Hugo Poche. Vous dites que vous ne supportez pas les idées fausses qui circulent sur les diabétiques. Quelles sont quelques idées fausses que vous aimeriez remettre à l'endroit?
J'en ai parlé tout à l'heure, c'est toute la stigmatisation autour de l'hygiène de vie et de la nourriture. Encore une fois, il y a cette idée un peu d'épinal de se dire que les diabétiques sont des gens qui, quelque part, l'ont bien mérité d'être malades parce qu'ils ont mangé
trop de sucre.
Des hamburgers toute leur vie, ont bu du coca et n'ont pas fait de sport, à regarder la télé, à jouer à la console. À la console, c'est un peu les images d'épinal qu'on a sur le sujet, alors que c'est pas si simple que ça du tout dans le cadre du diabète de type 2. Encore une fois, il y a une grosse part d'hérédité, il y a une grosse part de cofacteurs dont on ne sait pas véritablement quelles sont les causes. Donc dire ça, c'est prendre un raccourci qui est dangereux, qui est extrêmement stigmatisant pour ces personnes-là et qui peuvent conduire à des comportements compliqués. Il y a des gens qui sont en refus de leur maladie, en déni de leur maladie, au contraire dans un trouble qui est beaucoup plus délétère, qui peut avoir des dépressions, parce qu'effectivement la société peut être très jugeante sur le sujet. Donc voilà, il faut vraiment désamorcer ces images-là. Il y a aussi l'idée de se dire ah, maintenant le diabète c'est pas si grave, on en vit bien avec. Je dis que c'est pas si simple que ça. Effectivement, moi je le vis plutôt bien, mais il y a des jours où j'ai pas envie de le vivre du tout, c'est plus compliqué, c'est une maladie avec laquelle on vit bien, mais c'est pas facile, parce que c'est également, comme on en a parlé tout à l'heure, vivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec par exemple une pompe à insuline et un capteur sur le bras, c'est pas les choses les plus glamour du monde non plus. Faire des hypoglycémies, c'est pas non plus hyper sympa. Avoir cette charge mentale, par exemple si je suis en réunion de travail, me dire est-ce que je vais pas faire une hypo, est-ce que c'est compliqué ou pas, faire une hypo, la cacher un peu pour que ça gêne pas la réunion, c'est compliqué. Donc c'est cette réalité de la maladie qu'il faut mieux exposer, et c'est pour ça que c'est important que les patients prennent la parole pour justement l'exposer.
C'est ce que vous expliquez aux non-diabétiques qui parfois peuvent avoir du mal à comprendre ce que c'est que le quotidien de quelqu'un qui est diabétique. Vous parlez notamment de cette période d'acceptation et des différentes phases, vous comparez ça à un deuil.
C'est une image qui est vraiment reprise beaucoup par les médecins et le monde scientifique, de se dire qu'on passe par des étapes, les étapes classiques du deuil qui sont je vais forcément en oublier, le déni, du déni jusqu'à l'acceptation, il y a la colère, il y a plein de séquences, la dépression, etc. Donc on a l'impression qu'on passe sur un chemin qui est très balisé. Avec le recul, c'est pas si simple que ça, ça y ressemble beaucoup, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On peut faire des retours en arrière suivant les phases, enfin voilà, c'est assez... mais il faut être vigilant avec toutes ces phases-là, il faut les comprendre et surtout ne pas s'isoler et ne pas hésiter à en parler. Et cela, ça vaut vraiment pour toutes les maladies.
Oui, et vous comparez le diabétique à un funambule d'ailleurs,
Oui, voilà, il y a vraiment cette notion-là dans la gestion de son diabète, d'être toujours sur une espèce de limite, de toujours devoir jongler avec le précipice et tomber vraiment dedans, et puis marcher correctement sur un fil qui est ténu. Ouais.
Quel rapport est-ce que vous avez avec ce que vous mangez aujourd'hui et buvez?
J'ai un rapport plutôt simple avec la nourriture, parce que concrètement, il faut bien comprendre que les diabétiques, contrairement à l'idée qu'on en a également, ne sont pas au régime. Ils n'ont pas à faire de régime du tout.
Il n'y a pas un régime spécifique.
C'est un peu une image d'épinal. Ils ont à manger équilibré, mais comme tout le monde. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas diabétique, vous aussi, vous devez manger équilibré. Et un diabétique, il doit manger équilibré comme tout le monde devrait le faire, sauf que lui, il a un accès à une donnée qui s'appelle sa glycémie, qui lui montre véritablement l'impact de la nourriture. Donc tout le monde devrait avoir un régime de diabétique, c'est-à-dire manger essentiellement des fruits et des légumes, une part correcte de protéines et une part correcte de féculents, et pas manger n'importe quoi. Donc tout le monde doit faire cet effort-là. Mais c'est vrai que le diabétique, voilà, il a un impact direct de la nourriture sur son organisme. Mais il n'est pas au régime à part.
Mais est-ce que vous êtes devenu un spécialiste des index glycémiques, de la charge glycémique, ou pas du tout?
Alors malheureusement, oui, parce que moi je fais ce qu'on appelle de l'insulinothérapie fonctionnelle, c'est-à-dire que je compte les glucides que je vais manger pour m'injecter la bonne quantité d'insuline.
Donc c'est une formation, il faut expliquer aux gens.
Exactement, c'est une formation, donc toutes les diabétiques ne font pas ça, mais voilà, ça peut être une aide qui peut permettre d'être plus précise si on est sous insuline, et effectivement je suis capable de compter les glucides d'un plat, de l'estimer, et voilà, donc je ne suis pas un expert, malheureusement je suis obligé de le devenir pour ma maladie. Mais c'est passionnant parce que du coup, on apprend et on visualise véritablement le mal que peuvent nous faire certains aliments.
Mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de régime spécifique. Souvent, on dit, il y a cette idée, alors, il faut supprimer tous les sucres, par exemple.
Alors ça, c'est ce qu'on entendait beaucoup il y a 50 ans. Effectivement, un diabétique, il y a 50 ans, on lui disait qu'il fallait pas manger de pain et enlever tout le sucre. Ma grand-mère, elle a passé toute sa vie à manger du poisson bouilli et du riz
et des légumes.
Et des biscottes le matin, surtout pas de pain blanc parce que c'était satanique. Voilà. Donc il y avait des idées reçues qui étaient plutôt tristes. Un diabétique, s'il mange équilibré, tout va bien et il peut de temps en temps craquer sur un éclair au chocolat, une pièce montée, et ça sera pas très grave. Il faudra simplement faire attention. C'est sûr que si on mange des éclairs au chocolat tous les jours, 3-4 fois par jour, là il y a un souci et le diabétique le payera plus qu'une personne qui n'est pas diabétique.
Le sport, finalement, est-ce que vous avez changé votre approche aussi du sport?
J'en fais plus. Je pense pas que ce soit véritablement lié au diabète. Par contre, c'est sûr que quand on est diabétique de type 1 notamment et qu'on fait du sport, il faut être vigilant parce qu'on va faire des hypos. Il va falloir un petit peu essayer de comprendre comment on fonctionne. Il y a des gens qui vont être très très sujets à des hypoglycémies avec certains types de sport. Donc voilà, il faut se tester, apprendre à se connaître et agir en conséquence. C'est-à-dire se resucrer un peu avant, se contrôler en cours de route et être vigilant. Donc ça change forcément le rapport avec le sport, mais ça m'empêche pas du tout d'être sportif et de faire du sport.
Mais finalement, on se rend compte que ça a un bon impact sur les glycémies.
Oui, effectivement, faire du sport de manière régulière, ça va jouer sur le cycle hormonal, hein, ça ne joue pas que sur le diabète, c'est un bienfait démontré pour tout le reste, mais effectivement, ça a tendance également à lisser les courbes de glycémie et à permettre d'éviter les sauts de glycémie en hypo, en hyper et de faire des yo-yo trop forts.
Alors, vous aimez insister là-dessus, mais c'est valable pour tous les porteurs de maladies chroniques, c'est que la maladie ne vous définit pas.
Non, c'est sur un CV, c'est une petite ligne, c'est-à-dire que je perds mes cheveux, j'ai les yeux verts, je suis grand, j'ai 42 ans et je suis diabétique de type 1 et c'est une ligne parmi d'autres. Donc aujourd'hui, je parle dans le cadre de cette émission de cette ligne-là, mais demain, vous pouvez m'inviter pour parler de mes yeux verts si vous le voulez, je pourrais tenir un même discours long pendant 45 minutes sur le sujet. Donc effectivement, c'est qu'une ligne sur tout le CV humain et voilà, ça ne me définit pas, c'est une partie de moi.
Moi, j'ai les yeux verts aussi. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire sur les yeux verts, en fait?
Il y a plein de choses à dire,
Quand vous dites que vous pouvez faire une heure dessus, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur là-dessus?
En se renseignant pourquoi on a les yeux verts, comment ça se transmet génétiquement, pourquoi on a les yeux bleus, pourquoi il y a plus d'yeux marrons que d'yeux verts et bleus, je pense qu'on a de quoi tenir largement au niveau scientifique sur la couleur des yeux pendant
D'accord.
45 minutes.
Bon, alors, écoutez, je relève, alors vraiment le pari.
Je suis certain qu'on peut y
arriver. Aussi pour les yeux bleus,
Non, pas les yeux bleus, on les aime pas.
Alors non, vous ne les aimez pas.
Oui,
voilà.
C'est vrai.
Fodil qui réalise l'émission A les yeux bleus.
Patatras.
Donc dans certaines cultures, vous avez raison. Vous savez
c'est
que
vrai.
Dans certaines cultures, les yeux bleus ne sont pas aimés.
Non, alors je plaisante évidemment.
Voilà. Mais c'est vrai que on aime beaucoup les yeux bleus. Vous dites que la parole s'est libérée sur le diabète. Qu'est-ce qui a changé sur la façon dont on parle du diabète en 10 ans d'après vous?
Alors, j'agrandirais également cette remarque sur toutes les maladies, en fait. Je pense que c'est pas que la parole qui s'est libérée sur le diabète, la parole s'est libérée aussi sur toutes les autres formes de maladies et, pour aller plus loin, de formes de discrimination. Je pense qu'avec MeToo, il s'est passé quelque chose qui a été le fait que les gens ont pris la parole sur les mouvements féministes pour MeToo, mais il y a eu vraiment cet engouement de se dire aussi que d'autres personnes pouvaient subir des discriminations, les malades notamment, et on a pu voir de plus en plus des gens afficher véritablement leur maladie avec un aspect beaucoup plus militant de la chose. On a vu par exemple des mannequins ou des miss prendre la pose avec par exemple leur poche à stomie pour les personnes atteintes de maladie de Crohn ou également leur pompe à insuline, alors qu'avant on les cachait, et on a vu vraiment exploser cette visibilité des pathologies qui étaient pour jusqu'à présent dans le cercle privé, et les gens ont dit bah oui, je suis diabétique, ça se passe très bien, et on a vu beaucoup de stars parler effectivement de leur diabète, et je pense que c'est très bien.
Moi, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça.
Alors forcément, mon œil est corrompu parce que je les vois tout de suite.
Oui, parce que effectivement,
etc.
Vous êtes attentif.
Mais soyez attentif vous également, si vous remarquerez de plus en plus, l'été, des gens portaient des capteurs, vous verrez ces petits patchs sur leurs bras et vous vous direz, ok, ils sont diabétiques, maintenant je sais ce que c'est. Et auparavant, les gens le cachaient beaucoup plus que maintenant. Et voilà, donc ça diffuse lentement, peut-être pas assez vite, mais c'est des choses qu'on ne voyait pas auparavant.
Oui, moi, je connais pas d'homme politique, vous voyez, qui soit diabétique.
Alors c'était... Alors j'ai oublié son prénom, mais c'est l'ancienne première ministre anglaise qui était
May. Oui, Theresa May.
Theresa May, voilà, j'ai plus son prénom. Ah oui. Qui était diabétique et qui avait du coup porté lors d'une session une robe à manches courtes et elle avait son capteur et beaucoup de magazines en ont parlé. Donc avec un simple geste qui était très anodin, porter des manches courtes quand on est une femme avec un capteur, bah, tout d'un coup la presse anglaise s'en était emparée et c'était une très bonne chose.
Vous parlez du business qu'il y a autour du diabète.
Oui.
Et vous dites de vous que vous êtes aussi un consommateur de votre maladie. Hein.
Oui, en fait, disons que le système nous force à devenir consommateurs. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai parlé tout à l'heure des gadgets qu'on avait désormais, les pompes à insuline, etc. On voit qu'il y a une dérive un petit peu à l'heure actuelle des laboratoires qui vont présenter leurs nouveaux projets comme des produits de grande consommation avec, par exemple, le Pipou 3000, qui est beaucoup mieux que le Pipou 2000, découvrir le Pipou 3000. Enfin voilà, des espèces de concepts de marketing, alors qu'il ne faut pas oublier qu'on est des malades, on n'est pas consommateurs de notre maladie. Donc on a ça, on a plein de déviances. On a vu apparaître aussi la mode des influenceuses beauté et mode qui se sont mis des capteurs alors qu'elles n'étaient pas diabétiques pour essayer d'inventer des nouvelles normes de régime grâce à des capteurs de glucose. Voilà, il y a des dérives sur lesquelles surfent également les laboratoires pharmaceutiques et qui sont à montrer du doigt parce qu'elles sont stigmatisantes.
Et il y a toute la littérature autour du diabète aussi quand même.
Exactement.
Et c'est qu'à dire, il y a à boire et à manger dans cette littérature-là.
Il y a surtout ça, en fait. Clairement, 90% des livres sur le diabète sont des régimes parce que c'est des méthodes qui fonctionnent bien en tant que marketing. On le voit chaque année avec l'apparition des régimes pour notamment qui vont cibler les femmes. Hein, alors que la science prouve que le régime ne marche pas. Un régime qui dit, pendant 3 semaines, vous allez arrêter de consommer du pain, du sucre et manger que du poireau, par exemple. Ça, vous allez perdre du poids pendant 3 semaines, mais vous allez très vite le reprendre. Et les études scientifiques sont très clairs là-dessus et pourtant chaque année les magazines vont publier ça. Donc typiquement ce qui marche dans la presse féminine va marcher également pour les diabétiques et on a encore une fois chaque année ma super méthode pour guérir le diabète en mangeant 3 aliments, etc. Et ça aussi c'est à dénoncer.
En ce moment ce qui marche bien ce sont les détox sucrés.
La science prouve que les recettes de détox n'ont aucun intérêt. Il suffit de manger équilibré véritablement.
Bon. Mais votre livre, c'est un bon livre sur le diabète.
J'espère, en tout cas, c'est un livre que j'espère sincère et qui parle de science. Donc voilà.
Il y a énormément d'informations scientifiques dessus.
J'espère.
Ouais. Je fais beaucoup d'émissions médicales et on apprend énormément de choses. Donc effectivement, vous avez quand même, vous avez lu énormément de littérature scientifique autour du sujet.
Oui, voilà, il faut être précis effectivement et surtout quand on parle à des personnes qui sont malades, il faut véritablement être précis et être le plus juste possible. C'est pas il faut pas donner son avis de manière un peu arbitraire, il faut vraiment le documenter et c'est excessivement important.
Est-ce que la première pharmacienne que vous êtes allée voir après en sortant de l'hôpital a changé de métier ou pas?
Alors je sais pas, je suis simplement plus allé la voir et ça c'est important aussi comme message, hein. Si ça se passe mal avec votre pharmacien ou votre médecin, eh bien, il ne faut pas hésiter à en changer tout bêtement. Et donc, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle n'était peut-être pas très pertinente. Eh bien, je suis allé voir ailleurs.
Oui, elle vous a plombé le moral. Hein.
Un petit peu, oui. C'était un petit peu difficile au début.
Une dernière question. Comment est-ce qu'on choisit un bon diabétologue?
C'est une question un peu difficile. Je pense que c'est vraiment au feeling. Déjà, ne pas hésiter à en parler autour de soi et de prendre conseil. Il y a des associations de malades qui peuvent vous aiguiller. On est là encore une fois en tant que père pour vous dire, je te conseille peut-être celui-là qui correspondra peut-être à tes besoins. Mais c'est surtout comment ça se passe. Si vous avez l'impression qu'il vous écoute, qu'il répond à vos besoins, qu'il vous stigmatise pas, vous avez trouvé le bon.
Bon, sur Beurre FM, on a le meilleur. Hein, c'est le docteur Alouche.
Je le connais très bien.
Alouche. Vous connaissez?
Oui.
Ouais, voilà. Spéciale dédicace au docteur Alouche. Je rappelle le titre de votre livre, Alban Orsini. Ça se lit vraiment très, très, très bien. Hein. Même les informations scientifiques sont vraiment très claires. Vous êtes allé dans la simplexité. Donc ça, c'est important. Merci pour ce diabète, journal scientifique et humoristique d'un diabétique. L'éditeur, c'est Hugo Poche. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci et très belle journée santé sur Beurre FM.
Merci.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.